Une autre échéance plus coriace, ce sera l'Irlande mercredi. France-Île Féroé, coup d'envoi à 21h au Stade Bollaert de Lens. Bien entendu, retransmission intégrale sur les grandes ondes de France Inter. Il est pour l'heure 9h10, c'est l'heure de retrouver Rue des Entrepreneurs, Didier Hadès, Dominique Dambert.
Les cours du pétrole qui s'envolent, des faillites d'entreprises plus nombreuses, une population vieillissante, une croissance en panne. Bref, les sujets de morosité ne manquent pas. Le patronat veut surmonter la désespérance. Miracle attendu ou mirage redouté? On en parle aujourd'hui.
Rue des Entrepreneurs.
Le ciel de la rentrée est chargé en France. Certes, les chiffres du chômage sont à la baisse, mais l'amélioration est bien faible. Les chefs d'entreprise observent tous les indicateurs et ils s'inquiètent. Les prix, à commencer par ceux de l'énergie, sont à la hausse. Le pouvoir d'achat reste tendu, la consommation est sans enthousiasme, les dettes et les déficits sont chaque jour plus inquiétants et risquent d'interdire toute relance. Pas étonnant que les perspectives de croissance soient une fois encore revues à la baisse. Les perspectives électorales vont masquer les réalités et les mutations nécessaires, tout le monde en réclame et chacun s'efforce de ne rien faire. La société apparaît craintive, elle apparaît crispée, comme si l'on avait perdu confiance dans l'avenir. C'est dans ce contexte que pour son université d'été, le MEDEF s'est demandé ce que les entreprises pouvaient apporter à une société en quête de repères. Rentrée en quête d'optimisme pour les patrons, c'est le dossier aujourd'hui de Rue des Entrepreneurs, Didier Hadès.
Dominique Dambert.
Bonjour.
Dans la famille Tivoli, on fabrique et l'on vend de l'outillage depuis 1917. Le père, petit-fils du fondateur, est aux commandes. À ses côtés, deux de ses fils. Marc, 36 ans, a créé une filiale aux États-Unis il y a 5 ans dans le Vermont. Le Vermont, c'est près de la frontière canadienne. Elle emploie 170 salariés. L'aventure américaine fut difficile et risquée, mais aujourd'hui, la petite PME familiale est devenue un groupe, coté au second marché, et emploie au total 800 salariés. Taille assez exceptionnelle pour une PME française dont la majorité a du mal à passer le cap des 50 salariés. Regard croisé entre le père Jean-Michel et le fils Marc sur la façon d'entreprendre et de travailler des deux côtés de l'Atlantique.
Les problèmes que nous rencontrons en France, je pense, ils sont de deux ordres. C'est un problème réglementaire qui asphyxie un petit peu les entreprises et un problème fiscal. Et en particulier dans les affaires patrimoniales, tout ce qui touche l'ISF.
Alors d'abord, le réglementaire, quel est le problème? Pas de visibilité?
Alors, réglementaire, je vais sortir un exemple, c'est plus simple. La loi Aubry sur les 35 heures, c'est 133 pages. La simplification Fillon, c'est 30 pages. Je veux dire que dans nos petites entreprises, dans les PMI-PME, enfin nous avons la chance d'avoir un service de ressources humaines qui dépiote ça, mais dans les petites et moyennes entreprises, les gens, ce n'est pas leur métier ni leur fonction d'essayer de décortiquer des textes administratifs qui sont tout à fait abscons. Et je veux dire que notre énergie doit être employée à trouver de nouveaux marchés, à développer nos affaires et non pas à s'occuper de tous ces aspects réglementaires qui nous asphyxient. Ce qui est grave, je voyais dans les 35 heures, par exemple, nos forces commerciales, alors qu'autrefois elles n'étaient pas soumises à une réglementation d'horaire, elles le sont soumises aujourd'hui. Je dis pas qu'on décompte le temps d'arrêt au feu rouge et au feu vert, mais tout ceci, ça devient très compliqué à suivre. Et en plus, ça a donné l'idée aux gens qu'on pouvait gagner de l'argent, gagner plus en faisant moins. Et ça, ce n'est pas vrai dans un monde qui est excessivement concurrentiel. Et je vois par exemple aux États-Unis comme en Espagne, on n'a pas du tout ce problème. Par exemple, on est aux États-Unis, on a besoin de travailler, on travaille le samedi. S'il faut travailler le dimanche, on travaille le dimanche. En Espagne, c'est la même chose. Chez nous, c'est très compliqué. Il faut demander des autorisations aux inspecteurs du travail et tout ça. Alors qu'on obtient sans doute... Mais tout ça, ça prend du temps et ça mange notre temps.
Alors, vous, Marc Tivoli, vous avez ouvert la filiale aux États-Unis, ça fait 5 ans. Et quand vous revenez en France, quelque part, vous avez l'impression que c'est une autre planète. Vous dites, la France, c'est un pays figé, vous êtes sportif, vous êtes musicien. Vous dites, il y a du mouvement, mais en France, il n'y a plus de mouvement. C'est ça votre principal constat sur ce pays?
Oui, effectivement, en fait, quand vous arrivez en France, un dimanche à Paris, vous voulez manger quelque part, vous voyez les hôtels qui sont fermés, les restaurants qui sont fermés, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, et vous dites, mais je suis où là? J'arrive où? Sur quelle planète je suis? Et je trouve ça un petit peu triste parce que je pense qu'en France, il y a beaucoup de talents dans tous les niveaux, dans tous les métiers, que ce soit le secteur privé, le secteur public. On arrive aujourd'hui à une situation de blocage du système, blocage de l'initiative des gens, blocage de la créativité. On peut pas créer sans mouvement. Donc il y a un problème et je pense que la remise en cause, elle est pas au niveau de la société civile, c'est au niveau du système français, de la maison France, du système politique. Moins de lois, moins d'impôts, c'est très simple en fin de compte. La mise en œuvre est beaucoup plus compliquée, bien sûr, parce que ça demande du courage. Le problème, c'est pourquoi ne passons-nous pas à l'action? Où sont les blocages? Qu'est-ce qui bloque? Le monde ne va pas attendre après la France, ça c'est très très clair. Donc c'est vraiment à nous de nous réveiller.
Alors c'est quoi le cocktail du bonheur aux États-Unis?
Alors d'abord, la sécurité de l'emploi aux États-Unis, c'est intéressant parce qu'en France, on dit effectivement, vous pouvez être renvoyé du jour au lendemain, ce qui est vrai. Mais ce qu'on dit pas malheureusement, c'est que le salarié peut venir dans votre bureau en disant, boss, demain je m'en vais parce que j'ai trouvé $2 de plus de l'heure. Ce qui fait que le rapport de force, il s'équilibre à un moment donné et l'entrepreneur responsable ne profite pas de cette situation de fait parce que c'est à double tranchant.
À ceci près, c'est qu'il est plus facile pour un chef d'entreprise aux États-Unis d'embaucher, de recruter, que pour un chef d'entreprise français. Dans un cas, on a une facilité de se séparer, dans l'autre, on ne l'a pas.
Tout à fait, ce qui fait que les entreprises s'adaptent beaucoup plus facilement aux périodes de crise. Aux États-Unis, il y a un problème, on licencie 20 personnes. L'entreprise, alors c'est pas facile, hein, c'est jamais amusant, l'entreprise réduit sa voilure. Le business redémarre, on rembauche 20 personnes, 30 personnes. Donc on garde, si vous voulez, on garde la compétence technique, le savoir-faire. Je pense que il y a l'argent, mais c'est même aux États-Unis, c'est pas forcément ça le moteur premier. Ce qu'il faut donner aux gens, c'est avant tout un projet, une ambition, et il faut leur donner la confiance. Quand j'arrive en France, j'ai l'impression que heureusement qu'on a, je sais pas, le ministre de la sécurité sociale ou je sais pas quoi, qui est là pour nous expliquer pourquoi il faut être généreux et comment être généreux. Mais moi, ça me gêne quelque part. Ça me gêne quelque part qu'un ministre me dise « Marc, tu dois travailler 35 heures par semaine », surtout qu'elle ne se l'applique pas à elle-même. Donc c'est toute cette dissonance et cette manque de cohérence qui est troublante. Et je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Le travail, ça fait pas de mal, ça permet aux gens de s'intégrer. Et voilà.
Retour alors au simple et au bon sens. Le MEDEF avait choisi de s'interroger sur les façons de réenchanter le monde au cours d'un grand brassage d'idées émises par des chefs d'entreprise, des artistes, des hauts fonctionnaires, des chercheurs. Bref, en réunissant ce cocktail de confrontation qui fait la réussite des universités d'été. Le personnage vedette était naturellement cette année la nouvelle présidente de l'organisation patronale, Laurence Parisot. Présence discrète au milieu de ses patrons qui, malgré des perspectives de production plutôt bonnes, sont globalement pessimistes, bref, ils n'ont pas la pêche. Réenchanter le monde. Explication de texte avec Laurence Parisot, qui a choisi Rue des Entrepreneurs pour faire sa rentrée radiophonique.
Réenchanter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver une capacité d'émerveillement, une capacité d'enthousiasme, une curiosité, une gourmandise, tous ces éléments moteurs qui peuvent nous permettre à aller de l'avant, vers l'avenir. Les chefs d'entreprise ne manquent pas de ces éléments moteurs. Alors, la question véritable, c'est réenchanter comment? Et je crois que ce que nous apprennent ces universités d'été du MEDEF, c'est que surtout, il faut partir du réel. N'allons pas vers les utopies, elles sont extrêmement dangereuses. Regardons le réel tel qu'il est. Et c'est à partir de là qu'on pourra à nouveau créer des choses qui nous mettront sous le charme.
Quand vous dites n'allons pas vers des utopies, on peut aussi aller quand même vers un peu d'imaginaire, parce que la réalité parfois est un peu trop terre à terre, non? Et est-ce qu'on n'a pas besoin justement d'imaginaire, d'inventer le futur?
Je crois qu'il ne faut pas confondre l'utopie avec l'espoir. Que nous ayons un projet, oui, c'est même indispensable, et je crois que aujourd'hui dans notre pays, tout le monde ressent confusément que nous manquons d'un projet, d'un dessin qui nous permette d'avoir envie d'aller vers l'avenir. Il est frappant de voir que aujourd'hui la France préfère se réfugier dans la nostalgie du passé, pardon parce que c'est un pléonasme, mais il y a une tendance passéiste qui est tout à fait dommageable. Mais si nous regardons pas le réel tel qu'il est, Alors je crois que nous n'avons aucune chance de penser à un futur plus radieux. Si nous nous enfermons vers des utopies, vous savez, par définition, l'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas. Donc là, on sera dans une impasse, dans quelque chose qui sera sans issue.
Mais est-ce que la première étape, c'est pas finalement de créer des emplois, et ça c'est le rôle de l'entreprise? Quand vous dites que les Français devraient travailler plus, il y a beaucoup de Français qui voudraient simplement avoir un travail.
Le rôle de l'entreprise, c'est de créer des richesses, de servir des clients, de fabriquer des produits qui vont ensuite être vendus, exportés, etc. Le rôle d'un gouvernement, c'est de créer les conditions, l'environnement favorable aux entreprises pour leur permettre d'accomplir leur propre rôle. Et croyez-moi, tous les chefs d'entreprise n'ont qu'une envie, c'est de voir leur entreprise grandir, de la voir se développer. Quand on est patron d'une petite entreprise, on rêve d'être patron d'une PME. Quand on est patron d'une PME, on rêve de créer des filiales à l'étranger, de devenir une grande entreprise. Et devenir plus grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire embaucher. Embaucher. Donc surtout, ne nous trompons pas, les chefs d'entreprise désirent embaucher. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans bien des cas, embaucher est un risque qui est parfois quasi mortel, parce que le coût du travail est élevé et parce que nous avons un environnement juridique, mais aussi psychologique, qui n'est pas favorable à l'entreprise.
Mais vous dites aussi qu'il faut rendre le travail plus fluide. Le salarié de son côté, lui, il a envie de stabilité. Alors, vous êtes contre la stabilité. Votre interview au Figaro, il y a quelques jours, au début de la semaine, vous disiez que tout était précaire, la vie, la santé, l'amour, et pourquoi pas le travail. Bon, enfin, il faut bien quand même de temps en temps un peu de perspective, Laurence Parisot.
Je ne suis pas contre la stabilité. Je dis qu'un excès de fixisme est une illusion et quelque chose que par définition nous ne pourrons pas atteindre. Ça relève, pour reprendre un des thèmes de l'université d'été, absolument de l'utopie. Et j'insistais, puisque le mot précarité est un mot à la mode qui a pour objectif de nous empêcher de réfléchir. Et j'ai voulu expliquer que la précarité était une loi de la condition humaine. Alors que, à partir de là, nous essayons de concevoir un marché du travail qui nous permette plus facilement de passer d'un métier à un autre, d'un secteur d'activité à un autre, oui, c'est ça qu'il faut faire. Parce que se dire ou laisser croire à tout le monde aujourd'hui en France que nous pouvons entrer dans un métier, prendre un emploi et le garder quasiment à vie, ça aussi c'est de l'utopie. Ou alors c'est de la fonctionnarisation, c'est proche de l'utopie communiste et on a vu comment elle s'est terminée. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est que nous ayons par de la formation, par une meilleure compréhension plus rapide, une meilleure anticipation des nouveaux besoins en termes de compétences, de qualifications, que nous ayons tous l'esprit de mobilité. C'est certainement ça qui nous manque aujourd'hui.
Si l'on s'en tient aux propos tenus depuis seulement quelques mois sur l'état de la France, il y a peu de raisons d'espérer. Au cours de la rencontre annuelle du Cercle des économistes à Aix-en-Provence en juillet dernier, de nombreux experts se demandaient si la France, voire l'Europe, ne s'était pas endormi dans le wagon de troisième classe de la mondialisation. Cette semaine, lors de l'université d'été du MEDEF, on posait la question « La France a-t-elle posé le sac ?» Citons encore un des livres de cette rentrée, « La société de la peur ». L'auteur, Christophe Lambert, président de Publicis France, décrit une France déprimée, bloquée, irréformable, etc. etc. Le propos n'est pas original, c'est le dernier livre d'une longue liste d'ouvrages sur les pannes françaises. Mais tout cela est révélateur d'un climat où l'anxiété occupe tout l'espace de la réflexion. Pascal Baudry est sociologue et consultant. Il vit en France et aux États-Unis. En Californie, il a accueilli la plupart des PDG des grands groupes, des grandes entreprises françaises, pour leur faire comprendre la mentalité américaine. Aujourd'hui, il travaille sur la mentalité française. Il a publié un livre aux éditions Village Mondial, « Français et Américains, l'autre rive ». Précisons d'emblée que Pascal Baudry ne roule pour aucun parti ni aucun modèle. Il observe simplement les deux rives.
Les Français, ils sont dans l'être. Oui, ils sont dans l'appartenance, ils sont dans le subtil, dans la nuance, ils sont dans le lien, Alors que les Américains, ils sont pas dans l'être du tout, ils sont dans le faire. La seule chose qui est légitime pour un Américain, c'est que ça marche. Pour un Français, si en plus ça marche, ça peut pas nuire et encore. Mais il faut que la théorie soit juste. L'exécution, c'est subalterne. En plus, on a une pensée assez verticale, où il y a des choses qui sont nobles et d'autres qui ne le sont pas, des gens qui le sont, des gens qui ne le sont pas. Donc c'est quand même assez féodal, finalement, comme origine, tout ça. Alors que chez les Américains, qui eux, ont réussi leur révolution, on a une culture qui est beaucoup plus horizontale. Les gens ont une égalité de chance réelle aux États-Unis, dans le sens que ce qui compte, c'est ce que vous faites. Vous réussissez ou vous réussissez pas. Donc l'enfant, par exemple, il est constamment encouragé par la mère américaine à essayer, you can do it, vas-y, amuse-toi, et ainsi de suite. Alors que l'enfant français, il est constamment critiqué, ah, je te l'avais bien dit, c'est pas encore ça, les notes, c'est jamais 20 sur 20. Alors, aux États-Unis, il y a A, B, C ou D, donc c'est facile d'avoir A, et on donne A. En France, 20 c'est pour Dieu, 19 c'est pour le prof, et 18 et en dessous, ça veut dire que c'est pas assez bien, c'est pas parfait. C'est-à-dire que c'est une société qui fonctionne quand même beaucoup à partir de l'échec. En France, il y a une sorte de lourdeur. Vous voyez, on n'admet pas la réussite, on n'admet pas le profit, on n'admet pas que quelqu'un d'autre réussisse. Aux États-Unis, quand on dit good for you, ça veut dire vraiment c'est bon pour toi. Alors, je suis pas en train de dire que les Américains sont mieux, etc., etc. D'abord, un, c'est pas la question. Deux, qu'est-ce qu'on en ferait? Bon, et puis, franchement, en ce moment, aux États-Unis, il y a pas que du bon non plus. Bon, c'est pas ça que j'ai dit. Mais ça m'aide de voir, par le détour américain, des choses, par contraste, que je ne percevais pas quand j'étais simplement en France. Et là, je m'aperçois qu'il y a des éléments de la mentalité française qui nous plombent.
Mais les Français tels que vous les percevez, vous sentez ça leur pèse, ce climat, cette morosité qu'ils voudraient pouvoir changer, qu'ils sont tétanisés, qu'ils ne peuvent pas, ou alors au contraire que non, après tout, on était comme ça, nos parents étaient comme ça, bon, c'est un peu plus sensible en ce moment, et puis bon.
Non, il y a de la réactivité, il y a de l'énergie, il y a de la passion, mais alors c'est au niveau local ou au niveau vraiment individuel, c'est-à-dire repli sur soi, chez nous on se débrouille, dans mon couple on fait avec, dans la famille, etc. Bref, il y a de l'énergie là-dedans. Simplement, c'est une énergie qui est maintenue sous le boisseau, en partie du fait d'une énorme pression de l'institutionnel, du politique, de l'administratif, et puis aussi de l'image ambiante, du jugement extrêmement critique que les gens portent les uns sur les autres. Donc tout ça, ça fait que finalement, on s'en sort, mais on s'en sort localement, on s'en sort avec les copains, on s'en sort dans le village, on s'en sort dans son entreprise ou dans sa famille. Mais ça fait pas une réussite collective. Et c'est là que maintenant, ça coince, parce que la France ne va pas dans le mur, à mon avis. Maintenant, la France est dans le mur. Et ce qu'on a appelé, quand Bavrez a sorti son bouquin, La France qui tombe, on a appelé ça du déclinisme. Vous voyez, un mot extrêmement péjoratif. C'est pas du déclinisme, c'est du réalisme. Il va falloir s'y faire. Mais je pense qu'en même temps, ça, c'est une chance de sortie de la France.
Comment?
Ben, parce que, tant qu'on ne dit pas aux gens, écoutez, on est dans le mur, on va pas vous raconter que la reprise est au tournant, on va pas vous raconter que le chômage va se terminer, on va pas vous raconter qu'à la fin des 100 jours, ceci, ou il y a 2 ans, les autres disaient autre chose. Mais enfin, tout ça, c'est la même musique. C'est prendre les gens pour des... Bref. Or, les gens, ils sont pas si idiots que ça. Ils voient ce qui se passe dans d'autres pays, ils savent localement que c'est difficile, ils voient des entreprises qui luttent, ils savent que la Chine monte, etc., etc., etc. Donc, ce qu'ils attendent, c'est une parole vraie. Pas une parole manipulatrice, pas un « réalisez-moi une fois de plus », c'est plus ça. Ce que les gens attendent, c'est qu'on leur dise « il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut des gens qui aient du courage ». Personnellement, je roule pour personne, hein, donc je ne sais pas si c'est du courage de droite ou courage de gauche. C'est interroger d'autres personnes pour ça, c'est pas mon propos. Mais dans le travail que je suis en train de faire, de travailler sur la mentalité française, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir qu'il y a du ressort en France et que c'est un gâchis criminel que de ne pas y faire appel. Il n'y a pas un pays au monde plus capable que la France de venir au secours de la mère patrie en danger. Mais pour ça, il faut admettre collectivement qu'il y a danger. Il faut pas continuer de dire ça va pas si mal que ça, il y a un 0, un petit frémissement de l'indice, etc. C'est exactement... Bon, je suis psychanalyste d'origine, quand on a un patient déprimé, on lui dit pas ça va pas si mal que ça et ça va aller mieux. On l'aide avec le rythme adéquat à se rendre compte que effectivement Il y a ça qui va pas, il y a ça qui, il y a ça que, mais il y a aussi des potentialités, et ça, ça vient petit à petit. Quand il touche le fond, à ce moment-là, il rebondit. Et je crois que le pop français a cette capacité de rebondissement.
Rue des Entrepreneurs. Rentrée en quête d'optimisme pour les patrons. Dominique Dambert, Didier Hadès.
La France a encore du ressort. Il y a des exemples, heureusement, pour en témoigner. Peut-être, là encore, que ceux qui s'en sortent ont un regard différent. Le verre à moitié plein de l'optimiste contre celui à moitié vide du pessimiste. Prenons un secteur chahuté, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est celui de la distribution des livres et des disques. Faut-il pleurer face au ravage de la piraterie, face au ravage de la désaffection des clients? Ou faut-il observer que le client du CD et d'Internet n'est plus celui du vinyle? Jean-Noël Reinhardt, président du directoire de Virgin Store, l'autre grand du secteur.
Virgin, il y a 10 ans, c'était 65% de musique. Cette année, ça va être à peine 30%. Et le livre, qui représentait 14% de notre chiffre il y a 10 ans, va représenter en 2006 plus que la musique. Nous sommes en train de changer, le cœur de notre offre pour répondre aux clients d'aujourd'hui.
Et
pour...
C'était une volonté ou c'est un constat?
Non, c'était une volonté parce que c'est un mouvement qu'on a initié il y a 10 ans, donc bien avant que les gens téléchargent abondamment. Maintenant, je reconnais que depuis 3-4 ans, la baisse de la musique s'est accélérée du fait du téléchargement.
Mais attendez, si c'était une volonté, si vous avez réussi, ça veut dire que l'on peut réorienter les attentes, le goût du public?
On peut réorienter ce que le public, dont le goût ne change pas, vient chercher chez Virgin. Le public venait essentiellement chercher autrefois de la musique et de la vidéo, et ben maintenant, ce qu'il vient chercher, même s'il ne le sait pas encore tout à fait, parce qu'il s'en rend pas compte, c'est d'abord du livre. Mais il trouve toujours de la musique. Donc on ne réoriente pas le consommateur, on réoriente ce que nous proposons, nous, aux consommateurs. Et ça, on le fait fortement.
Est-ce que, si je traduis de la façon suivante, Jean-Noël Reinhardt, dans le monde de l'industrie ou de l'entreprise, globalement, ça va pas bien, mais moi, je m'en tire. C'est comme ça que vous pouvez le dire?
Non, parce que si nous avons commencé à bouger, nous n'avons pas assez bougé. Je dirais que la révolution technologique en marche, qui fait quand même que le marché de la musique a baissé de 40% en 3 ans, n'est pas compensée par une croissance simultanée identique des nouveaux marchés. Donc, on a quelques années difficiles devant nous, avec des décisions lourdes. On a lancé nos investissements, aujourd'hui un site de téléchargement, pas des nouveaux magasins. On diminue certaines surfaces dans les magasins, on en augmente d'autres. Peut-être qu'on sera amené à faire d'autres changements à l'avenir.
Cela dit, Jean-Noël Reinhardt, dans cette rentrée morose, il faut bien le dire, il y a un sacré défi, parce que les prix chutent, baissent, les consommateurs sont de moins en moins nombreux. Et puis vous, pour développer l'emploi, il faut développer des richesses. Donc comment vous arrivez à sortir de cette équation infernale?
Écoutez, nous, en 15 ans, on a créé 1500 emplois. On a créé des emplois quand plus personne n'en crée, y compris des emplois pour des jeunes et des jeunes non qualifiés qui avaient une passion pour le cinéma ou la musique ou le livre. Aujourd'hui, depuis 3 ans, nous ne créons plus d'emplois. L'illusion que 40% du marché de la musique peut s'en aller, être consommé gratuitement et que ça n'a aucune répercussion, elle est absurde. Bien sûr que c'est une répercussion. Nous ne créons plus d'emplois, nous réduisons nos effectifs dédiés à la vente de la musique et nous avons besoin, si vous voulez, de comprendre dans les discussions qu'on a avec les associations de consommateurs, les pouvoirs publics, les fournisseurs d'accès, les sociétés télécoms. On a besoin de redéfinir relativement vite l'organisation, je dirais, du nouveau monde marchand Parce que si on continue de la sorte, et que, j'extrapole, mais dans 5-6 ans, le marché de la musique physique n'existe plus, eh bien on fermera des magasins. C'est un mouvement extrêmement profond qui va nous amener, et qui nous a déjà amené à nous réorganiser sérieusement.
Tout change tout le temps, et la rapidité du changement nous affole. Mais le changement n'est pas une nouveauté de tout temps, les sociétés, et donc les entreprises ont dû s'adapter au changement. Jacques Chaise, ancien président du mouvement du Centre des jeunes dirigeants et patron d'une PME de robinetterie industrielle en Bourgogne, réfléchit et met en pratique ses idées sur la transformation perpétuelle. Pour lui, le salut passe par l'imagination, que l'on pourrait résumer par un slogan ou plutôt par une injonction, « Soyons décalés ». Explication Jacques Chaise.
Je pense qu'une des raisons principales, à mon sens, pour lesquelles cette morosité s'installe, c'est que beaucoup de gens poursuivent des stratégies d'imitation, des stratégies semblables, tout le monde fait la même chose. Et donc quand tout le monde fait la même chose, la seule différence, elle va être dans la capacité à le faire plus vite, à le faire moins cher. Mais au bout du compte, ça ne va générer que l'ennui. Et je crois que fondamentalement, le problème, il est là. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a la morosité, mais en même temps, moi j'ai vu beaucoup de pépites et beaucoup d'idées qu'on peut utiliser au quotidien dans nos entreprises.
C'est parce que vous êtes incontestablement un optimiste forcené. Parce que c'est pas très orthodoxe que de se dire on va utiliser ces petits espaces de non-conformisme. Ça fait pas sérieux, et peut-être même que ça peut inquiéter les actionnaires, ou les financiers, ou peut-être même les clients.
Je suis pas d'accord. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises qui aujourd'hui ont utilisé ces levées d'innovation et qui sont maintenant connues dans le monde entier. Vous prenez Starbucks pour les cafés aux États-Unis, ou vous prenez une entreprise qui s'appelle Yellowtail qui fait des vins en provenance d'Australie et qui est en train de faire des croissances de 20% de parts de marché aux États-Unis. Ce sont des gens qui justement, et ça leurs actionnaires leur en sont reconnaissants, qui ont utilisé les marges de manœuvre que leur donnaient les stratégies leurs concurrents, en ne faisant pas la même chose que, par exemple dans le domaine du vin, Yellowtail, c'est les gens qui ont plus inventé sur le côté fun, sur le côté drôle, sur le côté plaisant et le côté simple du choix du vin, plutôt que de capitaliser, comme beaucoup d'autres, sur le vieillissement, l'histoire, etc. etc.
Et maintenant, quand on fait des robinets industriels comme vous, c'est peut-être pas nécessairement sur le créneau, la petite niche que l'on peut arriver à se situer, que vous allez faire travailler vos usines, vos salariés, etc. etc.
Bah, détrompez-vous, pour l'instant, c'est au prémisse, mais on vient de sortir un produit en Norvège, dans un domaine tout à fait banal et triste, qui est la distribution d'eau. Ce sont des vannes de distribution d'eau. Et on a pris le problème complètement à l'envers par rapport à ce que font nos concurrents et ce qu'on fait nous-mêmes depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, le produit commence à plaire parce qu'il est complètement décalé. Et on s'aperçoit que pour avoir créé ce produit, il a fallu faire abstraction de beaucoup d'habitudes, de beaucoup de conformisme, et de se mettre complètement à côté du chemin que nous prenions habituellement pour inventer de nouveaux passages.
Alors ça, c'est pour la créativité du produit. Derrière les troupes, c'est-à-dire les salariés, suivent-elles avec envie?
Alors je crois que ça traite le problème du changement dans l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'en permanence, il faut changer. Je crois que tout le monde en est d'accord.
Oui, mais encore faut-il derrière être acteur, et voilà. Acteur volontaire.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que si vous êtes dans la position de subir le changement, vous allez traîner les pieds. Donc je crois que le rôle du chef d'entreprise aujourd'hui, c'est de mettre l'entreprise, toute l'entreprise, dans une position d'anticipation. Anticipation, ça veut dire accepter l'incertitude du futur. Ça veut dire ne pas savoir quelles vont être les réponses qu'on va donner à tel ou tel défi que nous posent les clients, ou que nous posent les concurrents, ou que nous posent les fournisseurs, ou que nous pose même l'administration. Et par contre, essayer de trouver tous ensemble les solutions. Et je crois qu'il y a des moyens très concrets pour le faire. Utiliser le dialogue plutôt que la discussion dans une entreprise. On pourra en débattre pendant des années, mais c'est deux choses totalement différentes. Dans le dialogue, on ne connaît pas la réponse, mais on sait qu'on va la construire ensemble. Dans la discussion, chacun a ses réponses, quelles que soient d'ailleurs les questions qui peuvent arriver dans le débat, et on va se battre autour des réponses sur lesquelles on s'arc-boute et dont on s'est fait les propriétaires. Donc je pense que accepter l'incertitude comme un enjeu commun et comme un produit commun dans l'entreprise, ça c'est véritablement permettre à tout le monde de changer, et ça peut être enthousiasmant. Même si cette incertitude au départ est plutôt un inconfort. Mais je crois que cet inconfort, il faut en accepter le détour pour ensuite se projeter ensemble dans le futur.
Ça veut dire que vous ne savez pas fondamentalement comment va être votre entreprise demain. Prenons le cas d'IBM, qui est un exemple très connu. Dans les années 90, l'entreprise, toute géante qu'elle soit, a failli mourir. Et aujourd'hui, ce n'est plus de fabriquer des ordinateurs qui la fait vivre.
Vous savez, il y a un chef d'entreprise ici dans cette université que je connais bien, qui s'appelle Pierre Bellon, qui avait une phrase tout à fait...
Pierre Bellon, Sodexo, la restauration collective.
Qui avait une phrase tout à fait adaptée à la question que vous posez. Il y a deux façons de voir le futur, de voir le changement. Il y a la façon de dire... comme souvent les gens qui vont reprendre des entreprises chic, tout va mal, c'est-à-dire que moi j'arrive, je suis le patron, le démiurge, et je vais pouvoir redresser cette entreprise, et je vais pouvoir profiter de la crise pour le faire. Bon, ça c'est une situation dans laquelle moi je me reconnais pas du tout, et beaucoup de chefs d'entreprise ne se reconnaissent pas là-dedans, parce qu'on peut pas faire un futur, je dirais, pérenne. Par contre, c'était la phrase de Pierre Bellon, de dire au secours tout va bien, c'est-à-dire que quand tout va bien, quand l'IBM que vous évoquiez, qui a d'ailleurs bien rebondi depuis et qui continue de rebondir, quand tout va bien, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions, qu'il faut se stresser un petit peu, alors que justement le confort et les listes de capoue ont plutôt tendance à nous faire penser, ben demain ça ira très très bien.
Alors le monde est-il tellement désenchanté? Quelle est la nature des relations d'une population et de ses entreprises? Il faut être prudent dans les interprétations, il faut savoir interpréter les signes. Jean-Pierre Piotet, président de l'Observatoire de la Réputation.
Le problème, c'est pas l'amour que les Français, les travailleurs, les salariés portent à l'entreprise. Le problème, c'est la relation qu'ils ont avec eux, avec cette entreprise. Et prenez le cas de Danone. Danone, il y a 3 ans, annonçait un plan social. À ce moment-là, ça a été un tollé général. Les syndicats, bien sûr les salariés, les politiques sont montés au créneau. Et il y a même eu un sondage qui a fait apparaître que Danone passait de la première à la 130e place parmi les entreprises préférées des Français. Donc c'était, disons, un désamour profond. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois, le 15 juillet, on a tout d'un coup appris que Pepsi-Cola allait s'emparer d'un de nos joyaux. Ce joyau s'appelait Danone. Le président de la République lui-même est monté au créneau et toutes les études ont montré qu'il fallait absolument sauver Danone. Tout le monde était derrière Danone. Tout le monde se lève pour Danone. Alors, tout ça est bien plus compliqué. Vous voyez, on peut à la fois à un moment aimer une entreprise et à un autre moment avoir un désamour avec cette même entreprise.
Mais à votre avis, qu'est-ce que les Français attendent vraiment de l'entreprise? Parce qu'ils ont compris que le monde bouge très vite et que l'emploi à vie, bon, c'est un peu terminé. Je veux dire, quel est le nouveau contrat de confiance qu'on pourrait imaginer en cette rentrée 2005?
Je crois ils attendent de sortir de l'incertitude. C'est-à-dire que les Français, mais je crois que c'est vrai aussi pour le citoyen, de la même façon que ça l'est pour le salarié, attendent de voir quel est le projet de l'entreprise et de quoi demain sera fait. Et ce qu'on attend pour la France, c'est d'être gouverné. Pour une entreprise, ce qu'on attend, c'est qu'elle ait une vision et un chef d'entreprise, un manager, qui vous dise où l'entreprise va aller.
Alors, pendant ces 3 jours d'université d'été du MEDEF, il y avait des thèmes qui ressemblaient un peu à des thèmes du bac, le bonheur au travail, la nostalgie, la désespérance, réenchanter le monde. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça que les Français attendent, ou simplement ils attendent qu'il y ait du boulot pour tout le monde?
Vous savez, il y a ce qu'on appelle le revenu discrétionnaire. Le revenu discrétionnaire, c'est celui au-delà duquel on peut dépenser sans avoir de se faire de soucis. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de Français, on est très loin du revenu discrétionnaire. C'est-à-dire qu'on est quand même sur la base qui est la sécurité, sécurité de l'emploi, c'est que maintien du pouvoir d'achat et le bonheur, c'est un peu en plus.
À défaut de bonheur au travail, l'un des thèmes débattus au cours de l'université d'été du MEDEF, la question est de savoir comment notre pays peut-il retrouver la pêche. Nous avons demandé à une famille d'entrepreneurs, la famille Tivoli, son ou plutôt ses points de vue. Le père Jean-Michel, petit-fils du fondateur, dirige cette PME de 800 salariés spécialisés dans l'outillage, dont le siège est en Savoie. L'un des fils, 36 ans, a développé la filiale américaine, c'est Marc. Enfin, le Benjamin Edouard a choisi le métier d'avocat.
Je crois qu'en réalité, c'est pas la France qui est malade, c'est l'État qui est malade. Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui qui est à résoudre dans notre pays. Je pense qu'en France, on a une majorité qui aujourd'hui est silencieuse, qui souffre un peu qui est un peu frustrée dans son coin. Mais ces gens-là ont du talent, et je pense qu'ils sont capables de demain de réagir très vite. Le problème, c'est que on a un État qui est malade, qui est, vous savez, moi je suis toujours effrayé quand on parle de ce mythe des 3% de déficit du PIB, mais ça se traduit en réalité à 25% du budget de l'État. Quelle est l'entreprise, quel est le citoyen qui peut vivre en dépensant 25% de plus qu'il ne gagne? Personne. Alors on dit 3% du PIB, c'est pas grand-chose, mais en réalité, dans les faits, c'est énorme. Et tant qu'on n'aura pas, on sera pas retombé sur terre, enfin, tant qu'on restera dans l'illusion, on aura du mal à se redresser. Mais moi, je reste parfaitement confiant.
C'est un vaste programme, hein. Je veux dire, c'est un projet en soi. Il y a moins trois axes à poursuivre. Le premier, c'est qu'il faut redonner l'initiative aux gens. Et il faut avoir confiance dans la société civile, il faut avoir confiance dans les gens. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, il faut qu'on arrive à simplifier toutes nos lois. Il faut absolument que les entreprises payent moins d'impôts, qu'on encourage les gens au travail. Et puis, il faut moins de lois, moins d'impôts, et donner la confiance aux gens. Et ça, il faut que ce soit un travail de fond qui se fasse, à mon avis, petit à petit, en expliquant aux gens, mais il faut le faire. Et il faut expliquer aux gens que le système, aujourd'hui, ne peut pas durer. Je veux dire, on parle de l'exception à la française, on parle du cadre de vie français, mais combien de la vraie question, c'est de savoir combien de temps on va pouvoir le maintenir.
La recette pour réenchanter. Alors, j'allais dire, si c'était une chanson de Trainet, ça serait peut-être Douce France. Mais je pense que d'un point de vue technique, l'idéal, ça serait de pouvoir redonner du sens aux choses et peut-être établir un petit peu de discrimination. Alors, je vais être provocateur en disant cela, mais je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être important de récompenser justement celui qui fait l'effort, quitte à sanctionner celui qui commet l'erreur. Et aujourd'hui, en France, il y a un égalitarisme total qu'on retrouve dans tous les domaines, je veux dire, que ça soit artistique, culturel, politique, juridique, qui tend à lisser, pas de vagues. Il faut que les choses soient discrètes. Et en fait, comment voulez-vous libérer les énergies si vous ne donnez pas aux gens la possibilité d'être récompensé in fine? S'il n'y a pas de prise de risque, la société ne risque pas d'évoluer. Et c'est exactement pourquoi les sociétés asiatiques, les sociétés des pays de l'Est se développent, parce qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils savent que pour un risque qui est un risque minimum, ils ont un potentiel de gain qui est maximum. Aujourd'hui en France, vous allez prendre des risques maximum pour un potentiel de gain minimum. Il faudrait être fou pour vouloir être enchanté dans ces conditions.
Dossier de rue des entrepreneurs. Rentrée en quête d'optimisme pour les patrons. Didier Hadès, Dominique Dambert.
En cette rentrée, la nouvelle présidente du MEDEF, Laurence Parisot, a du pain sur la planche. Même si elle a été élue avec une confortable majorité, elle a encore à séduire bon nombre de patrons dont les réflexes machistes ne sont jamais bien loin. Il lui faut aussi imposer son style aux médias, habitué aux déclarations tonitruantes de son prédécesseur Ernest-Antoine Sellière. Il y a d'autre part une partie délicate à jouer avec les partenaires sociaux. Quant au rôle de l'État dans l'économie, Laurence Parisot a déjà clairement affiché la couleur. Pas d'interventionnisme, mais elle attend une plus grande compréhension des politiques sur la réalité de l'entreprise. C'est pourquoi la présidente du MEDEF semble assez sceptique sur l'idée de patriotisme économique. Laurence Parisot.
Je suis pour le patriotisme économique à condition qu'il ne s'agisse pas d'établir une ligne Maginot. Alors de quoi s'agit-il ? La règle du jeu, qu'on le veuille ou non, elle est mondiale aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que les Français n'ont peut-être pas assez intégré. Et ils sont, je crois, encore dans l'utopie de penser qu'on peut bien fonctionner uniquement sur notre marché national. À partir de cette règle du jeu mondial, qu'on se donne les moyens de faire en sorte que notre équipe, l'équipe France, gagne, remporte des matchs, des batailles, plus que les autres équipes, alors ça, c'est une bonne intention. J'y suis tout à fait favorable. Mais ça ne se réalisera pas si on le fait en espérant monter des barrières pour empêcher les autres équipes de jouer, y compris sur notre territoire.
Laurence Parisot, la grande majorité des entreprises du MEDEF est composée d'entreprises de moins de 50 salariés ou 50 salariés. Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse là par rapport justement à la mondialisation pour pouvoir attaquer le reste du monde ?
Ah, vous avez tout à fait raison, c'est un des points difficiles dans la situation de notre pays, c'est que nos entreprises moyennes ne grandissent pas aussi vite que les entreprises moyennes de nos voisins allemands, anglais, et sans parler des entreprises américaines. Nous avons le taux de croissance de taille d'entreprise qui est un des plus faibles des pays de l'OCDE. Ce qui est malheureusement la démonstration de ce que je dis, c'est que nous n'avons pas un environnement qui nous permette de nous développer autant que nous le souhaiterions. Je crois que la première chose pour essayer de faire en sorte que ça ne se passe plus ainsi, c'est que l'ensemble du pays, ça veut dire évidemment les élus, le pouvoir exécutif, les administrations, tous les corps intermédiaires qui ont un rôle à jouer, comprennent l'importance de l'entreprise dans la vie du pays. À nous aussi, nous, chefs d'entreprise, d'intégrer les autres grandes problématiques de notre pays et à nous de dire, il y a l'économie et donnez-nous les conditions favorables à notre développement économique, mais il y a d'autres sujets. C'est ainsi que j'ai dit, et je le dis très fortement, que la question de l'intégration et donc toutes les problématiques de diversité sont des questions très importantes pour, je dirais, l'équilibre de notre pays. Et nous, les entreprises, nous devons nous emparer de ces questions au même titre que d'autres institutions.
L'entreprise doit donc être aussi acteur de l'environnement. Laurence Parisot insiste sur un dialogue sans parti pris. Elle donne pour priorité à son mandat la réconciliation de la France et de l'entreprise. Il est vrai que la défiance s'est solidement installée depuis la fin des Trente Glorieuses. Défiance qui touche tous les domaines, y compris les politiques, qui conduit à une forme de paranoïa et à l'isolement. Patrick Baudry, qui toute sa vie n'a cessé de traverser l'Atlantique pour observer vers le biculturalisme, il a publié chez Village Mondial « Français et Américains, l'autre rive ». C'est un livre en libre accès au passage sur son site internet. Patrick Baudry, qui observe qu'il est temps de se chercher un nouvel idéal.
Il y a un besoin de refondation, mais à ce moment-là, il faut le faire sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'examen critique collectif, et je dirais, le mot va vous surprendre, et je le dis sans naïveté, d'examen critique, mais en même temps avec compassion. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bain, là. C'est-à-dire on va s'en sortir tous ensemble ou on va couler tous ensemble. Et donc, quelque part, il va falloir qu'on apprenne à être un peu plus tolérant en se disant, si honnêtement, les uns et les autres, on essaye de faire ce qu'on peut, eh ben, ça sera déjà pas si mal. Mais les gens ne se mettront à faire ça que s'ils voient qu'ils vont pas être les dindons en le faisant. Or, en ce moment, qu'est-ce qui pousserait des gens à faire des sacrifices, à y aller, etc., à travailler plus alors que d'autres travaillent moins et que les valeurs d'ensemble, c'est moins travail, mieux ça vaut, à faire des sacrifices financiers alors que il y a des parachutes dorés, des choses comme ça, etc. Je ne suis pas en train d'attaquer les gens qui ont ces parachutes-là, c'est une affaire largement individuelle, mais ce que ça véhicule comme valeur, comme message, comme exemplarité, est catastrophique. Donc, quelque part, il va falloir, d'une certaine manière, qu'il y ait des valeurs qui se remettent en place. Et je pense que ça, c'est possible. Là où il n'y a pas une justice fiable, des repères qui sont précis, qui sont en place et qui sont des repères continus, les gens, à ce moment-là, savent qu'on est dans le flou. On sait plus qui est qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, quelle est la loi, quelle est la règle. Et à ce moment-là, c'est le tout et n'importe quoi. Et c'est par des glissements progressifs de ce genre qu'on est passé, en France, à une société archi-maternelle. C'est-à-dire que le père, physiquement, a disparu, probablement vers la guerre de 14-18. On a en armé une louche avec la Deuxième Guerre mondiale. Le père symbolique a suivi à quelques dizaines d'années près. La mère a appris tout cela. Et l'État français est devenu hyper maternel, Foucault disait l'état prudentiel, c'est-à-dire il s'agit maintenant de protéger tout le monde contre tout. Donc on est dans une société des pauvres petits. C'est pas ça la France. Et je crois vraiment sur le terrain, localement, que les gens, individuellement, valent mieux que ça. Mais ça va supposer un ressaisissement qui va demander un certain boulot.
C'est une responsabilité collective et individuelle de tous, les politiques, mais l'administration qui revendique son inamovibilité, son irresponsabilité, et surtout n'y touche pas. Ça pose problème, ça ?
Oui, ça pose problème parce que c'est une administration qui est largement irresponsable. Elle est irresponsable politiquement, elle n'est pas élue et elle n'est pas en fait comptable de ses actions. Le mot d'ailleurs, accountability en anglais, qui est un mot constant aux États-Unis, c'est un mot qui n'existe pas en français. À l'ENA, on commence à dire maintenant redevabilité. Bonjour. Hein ? Interviewez des gens dans la rue, demandez-leur qu'est-ce que ça veut dire redevabilité. Et si le mot n'existe pas en français, c'est pas par hasard. C'est parce que aussi on est dans une culture qui est par design, par construction, que nous avons construite les uns et les autres pour éviter les conséquences de nos actions. Et je pense que la raison de cela, c'est qu'on est dans une culture qui est tellement critique, on en prend tellement plein la figure quand on est petit, à l'école, dans la famille, c'est jamais assez bon. Je crois que l'enfant français est critiqué à peu près 100 000 fois dans sa jeunesse, que ça fait mal. et que donc on se construit une carapace qui fait que le français n'a jamais tort, est toujours capable d'avoir raison, ne s'excuse jamais, c'est le client qui a tort. Vous venez avec un truc patent dans une boutique et on s'arrange pour vous démontrer que c'est vous qui avez tort. Bon, ou dans une administration ou n'importe où, c'est dans la culture, ça. Donc on est dans une culture fondamentalement de non-responsabilité. Alors, il y a des niches pour la non-responsabilité, et la niche administrative en est une belle, et l'énarchie au sein de cette niche-là a une place tout à fait particulière.
On le répète en boucle, ce début de millénaire est caractérisé par le fait que tout change tout le temps, pour les individus et pour les entreprises. C'est le constat. Jusqu'où alors ce changement perpétuel peut-il être un aiguillon? Ceux qui nous observent de l'extérieur, et ils ne sont pas les seuls, constatent les inerties de la Maison France. Ils s'interrogent, la faute à qui? Dans un pays comme le nôtre, où le politique semble être le passage obligé, la démocratie aurait-elle dératé? Blandine Kriegel, philosophe, présidente du Haut Conseil de l'intégration.
Dans une société démocratique, il faut, pour le dire en termes de philosophique, il faut la volonté plus l'entendement. Il faut que les gens, n'est-ce pas, approuvent les raisons qui conduisent. Il faut que d'abord s'expliquer. L'homme politique doit s'expliquer sur le changement qu'il conduit. Et donc, il faut que, si vous voulez, il y ait une approbation par une majorité, puisque nous sommes soumis à des élections. C'est la volonté du peuple. Bien. Donc, il faut que la volonté du peuple soit en accord avec une politique. Ça, c'est absolument fondamental. Et alors, bien entendu, ça ne signifie pas que l'homme politique n'a pas de volonté. Au contraire, n'est-ce pas? C'est lui qui conduit, c'est lui qui guide, qui engage. Mais dans cet engagement, il doit convaincre, il doit persuader. Ce n'est pas parce que, si vous voulez, il a vu les choses de manière tout à fait juste en conscience, dans une société démocratique, que c'est suffisant. Il faut aussi qu'il ait convaincu, qu'il ait associé les concitoyens à sa démarche. Ce qui est plus important, c'est que les gens sont convaincus, n'est-ce pas? Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, s'ils ont le sentiment qu'ils sont impliqués. Que c'est une chose bonne pour eux, qui est juste pour la collectivité, mais est bonne pour eux.
Mais il est évident que on est naturellement conservateur, que l'on a un peu peur. À l'heure actuelle, l'ensemble des syndicats est plutôt contre l'ensemble des dispositions soumises à ordonnance, même si on peut dire, attendez, vous allez voir d'ici à 2 ans.
Je crois que, si vous voulez, les humains sont conservateurs quand ils ont le sentiment que le risque est trop grand. Vous voyez, la crispation sur la conservation des acquis sociaux, qui est tellement partagée aujourd'hui, elle est liée au fait qu'on ne voit pas l'intérêt d'un changement. On pense que le changement sera une chose négative. Mais on n'a qu'à regarder les enfants. L'engagement, le risque, la projection vers l'avenir, c'est aussi un instinct chez les humains.
Comment on fait pour dépasser ça, nous adultes?
Alors le problème, c'est de voir de bien, si vous voulez, identifier la nature de l'obstacle. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle crispation corporatiste en France si vous voulez, les acquis et qui ont un refus de se projeter vers l'avenir qu'on voit dans des tas de signes. Alors donc, pour reprendre la main, bien entendu, l'expérience des entreprises qui elles-mêmes se sont adaptées. Elle est très utile, qui ont trouvé les voies pratiques, est très utile. Mais il faut aussi que les sentiments, que les Français aient le sentiment que les changements vers lesquels ils doivent se diriger sont justes, se feront de manière juste, de manière équitable. Et pour ça, moi je crois beaucoup aux expériences pragmatiques, c'est-à-dire que par exemple, vous voyez les pôles de recherche industrielle que le président de la République a mis en place récemment, la relance d'une politique industrielle, justement, qui n'est pas simplement, si vous voulez, locale ou individuelle, mais qui entraîne des groupes qui se mettent à travailler ensemble et qui redonnent confiance à des groupes, ça me paraît un levier tout à fait intéressant et utile. Mais bon, c'est un exemple. Il y a d'autres choses qu'il faut faire, mais je remarque que sur des grandes réformes absolument importantes, comme l'école et la justice, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord dans la société française sur ce qu'il faudrait faire. Il y a au contraire un débat qui continue.
Sortir de l'impasse, c'est une préoccupation dont vous avez été très nombreux à nous faire part tout au long de l'été. L'une de nos auditrices évoque le plafond de verre social qui empêche de libérer l'initiative individuelle. Ce n'est pas dans la France d'en bas, mais dans la France d'en haut qu'il y a des vrais problèmes, nous écrit-elle. Mais ce n'est peut-être pas non plus en opposant systématiquement les deux France.
Rue des Entrepreneurs a été réalisé par Marie Merlier avec Alain Guédan, assistante Brigitte Leca. Entretien exceptionnel la semaine prochaine. Entretien avec Philippe Bourguignon, l'ancien patron du développement international du groupe Accor, l'ancien président d'Euro Disney ou Disneyland Paris, du Club Med, l'ancien directeur général du World Economic Forum. Passion, réussite, mésaventure, leçon de management? Non. Formidable leçon d'optimisme. Didier Hadès.
Dominique D'Ambert.
À samedi prochain.
Et oui, le rendez-vous sera pris. Vous pouvez bien sûr écouter Rue des Entrepreneurs consacré aujourd'hui à la rentrée en quête d'optimisme pour les patrons sur le site de France Inter pendant les 4 prochaines semaines. L'adresse France Inter, les 3W.franceinter.com, France Inter en un seul mot. Vous trouverez aussi sur le site de l'émission la liste des invités. N'hésitez pas bien sûr à leur laisser un message. Vous écoutez France Inter, il est 10h. Et on retrouve Éric Delvaux, bonjour.
Bonjour. 5 jours après le passage du cyclone Katrina, les secours s'organisent, surtout dans le Mississippi, en même temps que la polémique enfle sur l'impréparation des secours. La petite fille de 2 jours qui avait été enlevée jeudi à l'hôpital de Montfermeil a été retrouvée hier soir, saine et sauve, dans un hall d'immeuble. Les universités d'été de l'UMP, c'est à la Baule, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin en tribun. Les deux hommes ont déjeuné ensemble ce matin. Les jeunes de l'UMP pourraient peut-être un jour les départager dans la course à l'Elysée. La France contre les îles Féroé, c'est l'un des 4 matchs que les Bleus devront gagner ce soir s'ils veulent se qualifier pour la Coupe du Monde de 2006. Début de ce match à 21h sur France Inter Grandes Ondes. Le ciel de ce samedi, ce devrait être beau et chaud avec du mercure au-delà des 30 degrés, prévient Météo France. À la fin de ce journal, le retour de la chronique à